Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des thèmes et des sujets qui vous concernent. Avec nous ce soir, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Hugo.
Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et nos invités, deux invités ce soir, Sylvaine Landrivon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en théologie, membre du comité de la Jupe qui vise à promouvoir la place des femmes dans l'église catholique. Et Luc Jemet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des victimes du Père Ribble, le premier à avoir dénoncé publiquement les agissements de ce prêtre dans le village de Gramont notamment. Avec vous ce soir, on va parler des violences sexuelles dans l'église, quasiment un an, donc jour pour jour, après que la parole se soit libérée à Gramont lors d'une réunion publique au sujet du Père Ribble. Et avec donc une question, violence sexuelle, l'église est-elle à la hauteur? Et pour commencer, je voudrais qu'on parle de cette nouvelle annoncée par la ville de Charlie, Luc Jemet, avec votre mobilisation avec l'association Be Brave. Les 11 vitraux de l'église Saint-Antoine vont être retirés. Comment vous avez-vous accueilli cette nouvelle?
Alors j'en doute encore tellement ça a fonctionné, mais bon, je me dis que c'est un premier pas vers la reconnaissance que les œuvres de Ribble peuvent nous chambouler complètement, quoi. Mmh. Je dis œuvre, mais c'est pas œuvre, quoi. Enfin, que les tableaux, les réalisations de cet homme nous remémorent tout ce qu'on a vécu. Donc ouais. C'est quand même une bonne nouvelle, et j'espère que ça va, que les autres communes vont suivre.
Il en reste ailleurs.
Il en reste ailleurs, oui. Il y a 5 autres communes, dont Caluire et Cuire. C'est la propriété de l'Église catholique. Donc je pense que l'Église catholique pourrait le faire sans demander.
Et vous avez des retours, des intentions sur ces 5 communes? Oui. Qui vont dans quel sens?
Alors, en ce qui concerne Sainte-Catherine sur Rivry, ils ont commencé les démarches, ils ont demandé des devis. On a vu le maire, ça a l'air de bien avancer. En ce qui concerne Dième et Givors, les maires sont dans la même position qu'était Charlie il y a quelques temps, c'est-à-dire on ne reconnaît pas des enfants abusés sur les vitraux, donc on ne voit pas l'utilité. Voilà, c'est leur position. Donc j'espère qu'on va arriver à leur faire changer de position. Puis c'est nous, victimes, qui...
Votre objectif, c'est un retrait total.
Oui.
C'est quand même aux victimes de décider ce qui doit advenir de ces œuvres. Certainement pas à leur auteur ou à des tiers.
Qui peut juger de
c'est ça. De ce parce que vous êtes directement impliqué et directement en lien.
Tout à fait.
Oui, parce que ce que disent certains maires, c'est... Bon, alors déjà, il y a toujours la question du coût qui est évoquée. Mais là, en l'occurrence, le maire de Charlie disait il n'y a pas de victime qui s'est manifestée. Bon, en l'occurrence, vous étiez manifesté et là, vous êtes manifesté.
Oui.
Bon.
Et puis le coût, à ma connaissance, l'Église catholique a dit qu'elle paierait le coût. Hein. Donc,
les diocèses ont annoncé l'année dernière, en tout cas.
Voilà. Alors, est-ce que la communication a été mal faite? Je ne sais pas.
Bon, affaire à suivre. Je voudrais qu'on revienne avec vous quand même sur cette date. L'année dernière, le 18 janvier 2022, une réunion publique a lieu à Gramont, donc dans la Loire, à côté du Rhône. Une dizaine de personnes témoignent des abus sexuels qu'elles ont subis de la part du père Louis Ribble. Des témoignages qui ont secoué donc les diocèses de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble. Comment vous, à l'époque, vous aviez vécu ce moment?
Je suis encore ému par ce moment. C'était très intense, très chargé d'émotions. C'est très émouvant de voir des gens dire « moi, je suis conseiller municipal, tout va bien », et puis tout d'un coup, il s'écroule, et puis voilà... c'était très fort, et Voilà, c'était, j'ai ressenti de la chaleur. Je savais qu'il y avait.
La parole s'est libérée, quoi, à ce moment-là.
La parole s'est libérée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parlé dans la salle, mais en tout cas.
L'émotion
était très forte. Ouais.
Et vous-même, qu'est-ce qui vous a décidé à parler sur ce prêtre, donc qui était en place dans les banlieues de Lyon et de Saint-Étienne dans les années 70?
Alors moi, c'est tout simplement en discutant avec ma fille aînée qui était enceinte. On en avait déjà parlé, mais là, on en a parlé vraiment dans le détail. J'ai raconté comment ça se passait. Et elle m'a dit, mais papa, mais tu t'es fait violer, enfin, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Voilà, et puis ensuite, on a fait des recherches, et ensuite est venue la révolte de voir que ce prêtre, moi je suivais plus du tout l'histoire de ce prêtre, que ce prêtre était considéré comme le Picasso des églises, enfin c'était quelqu'un...
Il est resté en poste, en contact d'enfants, etc. Et on a découvert que des témoignages avaient... des gens avaient saisi la hiérarchie de l'Église avant votre témoignage. Est-ce qu'on peut parler de loi du silence ?
Oui. Oui, oui, la loi du silence. Je me suis même demandé si c'était pas un réseau de pédocriminels, carrément. Parce qu'en 1976, donc voilà. moi je suis dans le séminaire, dans le lieu où ce prêtre travaille. Un séminariste me voit rentrer dans la chambre de Ribes. Il tombe sur des croquis des nus que Ribes fait, des dessins pédopornographiques, il nous dit. Hein. Il prévient la hiérarchie et à la fin de l'année, on lui dit vous ne pourrez pas être prêtre, vous n'avez pas les conditions requises.
Donc c'est entre guillemets le lanceur d'alerte, même si on n'utilisait pas ce terme à l'époque, qui a été sanctionné plutôt que le coupable.
Ah oui, il a été vraiment sanctionné, oui, puisqu'il il voulait être prêtre, c'était son souhait.
Et avec le recul, vous pensez que c'était un réseau ou c'est d'abord la volonté de protéger l'institution?
Je ne sais pas, parce qu'on peut... il faudrait vraiment une enquête pour savoir si c'était un réseau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des photos... Ribes faisait des photos de nous nus. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues.
Sylvain Landrivon, justement, on le rappelle, vous êtes docteur en théologie. Quel regard vous portez et comment vous avez finalement reçu ces nouveaux témoignages, des énièmes témoignages, j'ai envie de dire.
C'est absolument bouleversant. Et moi, en tant que catholique, je voudrais vraiment demander pardon. Pardon pour vous, monsieur, pour toutes ces victimes, parce que c'est épouvantable de se dire, bien sûr que j'attendrai jamais d'acquiescement de mon pardon, mais de se dire que c'est un système qui est entretenu et qui continue. Tout ça parce qu'on met au centre de ce système la sacralité du prêtre. On met un homme à part, on lui donne une ordination, on lui donne un pouvoir, on l'habille éventuellement différemment. On lui donne le célibat. On le met kléros, ça veut dire mis à part. Mmh. À part pour faire quoi? Pour avoir une puissance que n'ont pas les autres. Et certains, alors bien sûr pas tous les prêtres, il y a Dieu sait des prêtres qui ne sont pas comme ça, mais certains vont abuser de ce pouvoir. Et ils vont en abuser contre tout ce que dit l'Évangile. Par exemple, on entend sans arrêt, vous dites sur les médias, j'ai remarqué que vous ne le dites pas vous, le père Ribes. Mmh. Mais ce titre de père, c'est déjà la base d'un abus possible, un abus d'autorité, parce qu'il y a la proximité de la paternité et en même temps cette autorité du père.
Il faudrait dire comment Louis Ribes, il faudrait l'appeler par son
prénom.
Mais oui,
Louis Ribes.
Ouais, moi je m'appelle Louis Ribes.
Dans l'évangile, Jésus interdit de dire père. Il dit n'appelez personne père, vous n'avez qu'un père qui est dans les cieux.
Pourtant, c'est commun, enfin tout le monde.
Ah ben c'est commun parce que c'est pratique. Si vous voulez asseoir votre autorité et votre pouvoir, le Père, on ne peut pas trouver mieux comme modèle.
Effectivement.
Sauf que Jésus lui-même a dit « Je suis votre frère ». Cette notion de fraternité, qui dit l'horizontalité, elle empêcherait ce qui vous est arrivé. Parce que avec l'autorité et le pouvoir, vous avez d'abord l'abus de confiance, l'abus de pouvoir... Et on voit bien que ça peut dériver très vite. Alors, sur l'abus sexuel.
On va revenir sur toutes les causes, notamment, et justement sur ce que vous dites. Avant de poursuivre la discussion, on va regarder l'édito de la rédaction qui est préparé par Stéphanie de Silgui.
Très 13 janvier 2022, le diocèse de Lyon reconnaît que le père Ribes a commis dans les années 70 des actes de pédophilie dans la région lyonnaise. Un an plus tard, quasiment jour pour jour, et bien seulement 48 victimes se sont manifestées. Un passé trop douloureux, diront certaines, qui les empêche de venir témoigner, et ce malgré la mise en place de cellules d'écoute. Mais si la grande majorité des personnes ne s'est pas fait connaître, c'est avant tout à cause de la complexité des démarches d'indemnisation, des procédures lourdes, longues et décourageantes. Des fidèles ou ex-fidèles qui préfèrent aujourd'hui se détourner de l'Église, dont la réputation est entachée et le manque de transparence toujours très présent. Pendant des décennies, l'Église est restée silencieuse, et ce, malgré avoir été avertie de graves dysfonctionnements. C'est toute une partie du droit canon qui doit aujourd'hui être mise à plat. Donner davantage de place aux femmes, en leur ouvrant notamment l'accès à la prêtrise, à l'épiscopat et plus généralement à toutes les responsabilités de l'Église, sont des idées qui font aujourd'hui leur chemin.
Votre réaction à cet édito, Sylvain Landrigon ?
Claire, synthétique, mais je note que votre collaboratrice parle quand même du père Ribes encore. On n'arrive pas à se détacher, même pour un prédateur aussi évident, on garde le titre de père. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème.
Mais ça, c'est une faute de l'époque, selon vous ?
On a pris tellement l'habitude de donner ce titre de pouvoir aux prêtres, en les mettant à part, qu'on est incapable aujourd'hui de s'en détacher, y compris dans le monde laïque.
Vous pensez que c'est cette histoire d'institution un peu sacralisée qui fait que des familles ont fait preuve d'un excès de confiance, voire de cécité par rapport à ces abus ?
Complètement. Je pense que dans ce respect qu'il y a du titre du prêtre, du pouvoir du prêtre qui s'identifie à Dieu pour la plupart, c'est ce que Benoît XVI, Jean-Paul II disaient, au prêtre, identifiez-vous à Dieu. Ça donne un tel respect, un tel pouvoir auprès des parents que des enfants ne peuvent même plus parler.
Vous, votre entourage n'a rien vu ?
Je pense qu'ils n'ont rien vu, c'est ce qu'ils me disent maintenant, ouais.
Est-ce que ce père occupait une place particulière ?
C'était un ami de la famille, c'était un ami de mon père, donc voilà.
Donc vous étiez dans une famille très pratiquante ?
Très pratiquante, oui. Ouais.
Donc cette influence de la figure du prêtre a joué un rôle négatif.
Oui, bien sûr.
Aggravé par l'image de l'artiste en plus, vous dans ce cas-là.
Oui, alors c'était moi qui étais attiré par l'artiste.
Ah oui.
Donc,
On va y revenir justement, mais je voudrais juste refaire un point avec vous. Donc on est un an après les révélations. Aujourd'hui concrètement, on en est où ? Le nombre de victimes recensées, dirais-je, de Louis Ribes.
C'est difficile,
c'est difficile
à dire. Moi, je dirais que 75 ont vraiment déposé leur témoignage. Mais moi, c'est évident que c'est beaucoup plus.
C'est une minorité par rapport au nombre d'enfants qu'il a côtoyé, j'imagine,
oui,
ce que vous dites.
Bien sûr, puisque à Gramont, il faisait un genre de colonie de vacances. Voilà, et c'est quand la parole s'est libérée à Gramont, les gens l'ont dit. On le savait tous, plus ou moins.
Mais personne ne parlait.
On est dans le même scénario que Préna et que tous ces prédateurs qui, finalement... Alors,
globalement, au niveau national, la commission chargée par l'Église de recenser ces victimes, ou en tout cas les écouter, a sorti un chiffre effarant, 330 000 victimes sur plusieurs décennies. Après, ce chiffre a été contesté. Est-ce qu'on en a une idée précise de ce phénomène aujourd'hui, finalement ?
Alors, aujourd'hui, il y a deux commissions qui ont été mises en place pour venir en aide aux victimes dont les affaires sont prescrites. Alors, il y a une commission qui est en place pour les victimes de religieux, qui est la CRR, et une autre commission pour les victimes de prêtres diocésains.
Oui, ce chiffre globalise les deux, je crois.
Le problème, c'est que... Alors, c'est un progrès, je pense, parce que quand on se souvient qu'un certain cardinal a dit... Grâce à Dieu, c'est prescrit.
Donc Barbarin.
N'est-ce pas ? Aujourd'hui, ces commissions prennent en charge justement les cas prescrits. Ils font un travail énorme, avec des tout petits moyens, qui font qu'il y a à peu près 1500 dossiers, je crois, à la CRR, qui sont déjà en place. 1200
Pour moi, c'est dans les deux. Ouais, ouais,
voilà, à peu près, disons 1500 de chaque côté, une cinquantaine de personnes qui travaillent, et un parcours du combattant énorme de la part des victimes qui doivent déposer un dossier.
Et qui doivent même quelquefois s'auto-évaluer.
Voilà.
Alors, auto-évaluer leur préjudice.
Ah oui, oui. Parce que si on fait un prorata par rapport à la population de la métropole et de Lyon, on est à plus de 6000 sur la métropole, plus de 2000 sur Lyon, ce qui est relativement énorme par rapport aux quelques dizaines qu'on a entendu parler. Donc ça veut dire qu'on, pour vous, on passe à côté de beaucoup de victimes.
Il faudrait que l'Église, que ces commissions soient en capacité d'aller à la rencontre des victimes et de ne pas attendre que les victimes fassent les dossiers.
Une vraie enquête de police, retracer toute la trajectoire de ces prêtres, la carrière, et d'aller au-devant de ces victimes pour les faire parler dans chacune des paroisses où elles sont passées.
C'est ça. Et je pense que dans le travail de reconnaissance et de réparation, il y a ça à faire. Alors, bien sûr, on pourrait tirer sur ces commissions. Elles font tout ce qu'elles peuvent avec des moyens très insuffisants.
Les moyens sont très insuffisants. Voilà.
Comment aider ces commissions à progresser? Si aujourd'hui quelqu'un dépose un dossier, je crois qu'il sera traité dans 2 ou 3 ans. Quand on sait le temps qu'il faut, et là je parle souvent de contrôle, pour avoir la possibilité de dire la violence qu'on a subie.
Mais ces délais, ça s'explique parce que l'Église n'y met pas les moyens humains, n'a pas les moyens financiers ou ne veut pas les mettre.
Les moyens ne sont pas là.
Moi, je pense que les moyens financiers, l'Église ne veut pas les mettre. Les finances, l'Église les a. Donc,
pour vous, les réparations envisagées sont insuffisantes en termes de montant, en termes de modalités.
En termes de montant, mais quand je parle de les moyens financiers, ça serait aussi pour qu'il y ait plus de monde aussi pour travailler là-dessus, quoi. Pour effectivement aller chercher les gens, faire des enquêtes, ça devrait être à la police de faire ça, mais bon...
Parce qu'il y a la question de la prescription, etc.
Voilà, la police, l'État ne peut plus rien faire.
L'Église pourrait avoir une initiative, entre guillemets, parallèle de recherche.
Parce que je pense que la réparation financière, la souffrance est telle qu'on ne pourra jamais compenser et que de toute façon, la guérison, elle n'existe pas. Vous ne reviendrez
pas
à l'état antérieur.
Ce qui est important, c'est la reconnaissance
de l'institution du phénomène.
Voilà, reconnaître et réparer, ne serait-ce qu'en écoutant. Et en voyant que dans tous ces cas, il y a un problème systémique, que le rapport Sauvé l'a mis en évidence.
Alors justement, est-ce que la création de la CIAS, donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, selon vous, ça a changé quelque chose? Est-ce qu'au moins ça a pointé cette chose-là de la reconnaissance?
Ah ben ça a déjà révélé que c'était pas une vue de l'esprit, qu'il n'y avait pas que quelques victimes, que François Deveau ne parlait pas comme ça tout seul, comme un cas isolé. Mmh. Voilà, on en est à 300 000 victimes.
Et même quand on sait qu'il y a 330 000 victimes, c'est pas évident quand même d'aller dire bah moi aussi je demande une réparation.
Et pour vous, la bonne méthode, ce serait des réunions publiques, parce qu'il n'y a plus question de police et de justice quand l'affaire est prescrite, mais de morale, de réparation, de reconnaissance. Est-ce que ces réunions pourraient susciter des témoignages? Elles sont bien accompagnées?
Oui, c'est vrai que les réunions qu'on a faites ont permis à des gens de parler, mais il y a des personnes qui ont parlé qui ne veulent pas entendre parler de l'Église. Donc la CRR et l'INIR, qui sont des instances indépendantes, ça ne les satisfait pas non plus.
Tout est parti de Lyon avec l'association La Parole Libérée, où vous avez fait référence sur l'affaire Prena. Est-ce qu'aujourd'hui la parole s'est vraiment libérée? Est-ce que ce terme est approprié, ou il y a encore beaucoup de chemin à faire?
Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ils ont fait un boulot énorme, un super boulot, vraiment. Enfin, je rencontre plein de victimes qui font référence à l'association, à François Deveau.
Et vous-même, qui avez une longue carrière dans l'Église, vous connaissez cette institution quand même, vous aviez entendu des rumeurs
Oui, bien sûr qu'on entendait des choses. De là à imaginer cette espèce de cataclysme, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Et de voir que ça continue tous les jours, ça n'arrête pas. On a l'affaire Sentier, on a l'histoire des béatitudes. J'ai l'impression que, je le disais pendant le temps de l'Avent, je disais, mais chaque fois qu'on ouvre une fenêtre du calendrier de l'Avent, il nous tombe un prêtre ou un évêque avec une affaire d'abus sexuels. C'est sidérant quand on est vraiment catholique et qu'on croit en un Dieu d'amour, je veux dire. C'est à ça que sert notre religion ? à faire des prédateurs pareils qui font subir des martyrs à des centaines de milliers de personnes.
Luc, vous, l'un de vos chevaux de bataille, c'est la demande d'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ben, moi, j'ai mis 50 ans pour parler. On met tous énormément de temps pour parler. Quand on parle, les faits sont prescrits. Donc il faudrait, dans le cas de l'affaire Rips, s'il y avait une enquête de police on retrouverait beaucoup plus de victimes. Là, l'enquête de police, on va pas demander. Enfin, je vois pas comment demander à l'Église de le faire, même si l'Église a un système. Je sais pas trop. Il y a un système de justice. Enfin bon. Donc c'est évident que ça serait ah oui, avec l'imprescriptibilité les choses changeraient. Et puis l'amnésie traumatique, j'ai des copains et c'est revenu d'un coup ce qu'ils ont vécu. C'est violent, hein.
Oui, parce que d'autant que vous, ce qui vous a marqué aussi, c'est qu'on en disait un mot tout à l'heure en début d'émission, mais l'Église savait, mais elle n'a rien fait, comme pour Bernard Prenat.
Oui, l'Église, oui, tout à fait.
Et on a appris récemment que pour le père Babola, alors je ne sais plus son prénom en tête, si vous pouvez l'appeler père, mais qui est décédé avant que l'affaire éclate,
Monsieur Babola,
que de son vivant, une mère d'élève avait écrit au diocèse sans réaction. Mm-hmm. Est-ce qu'on saura quelque chose un jour de cette histoire ? Est-ce que des témoins sont venus vers vous ?
Pour l'affaire Babola ? Non. À ma connaissance, non. Alors après, on est plusieurs dans le collectif, j'ai pas toute l'énergie pour...
Ça fait référence à ce que vous disiez, c'est qu'il y a des témoignages qui ressortent, qui n'ont pas été traités en temps voulu et dont on ne saura vraiment jamais la vérité, puisque les coupables ne sont plus là pour s'expliquer.
Mais Luc parlait très bien de l'amnésie traumatique. Je crois que tout le monde ne peut pas remettre à jour, réaliser ce
qui s'est passé,
l'horreur qui s'est produite.
On a un système de défense, quoi, le cerveau...
D'autant qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir... Si on peut... Un enfant subit une violence et peut en parler à ses parents. Donc il y a ce recours. Mais si c'est en interne dans la famille, si c'est un ami proche des parents, et si c'est un prêtre dans une famille catholique, l'enfant est bloqué, verrouillé. Il n'a qu'une chose à faire, c'est enfermer ça à l'intérieur de lui, parce qu'il ne sera même pas cru par sa famille. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. S'il se plaint d'une horreur et qu'on ne le croit pas. Donc la réaction, la spontanée, c'est de ne rien dire. De ne rien dire, on étouffe tout, et un jour ça ressort pour une raison ou pour une autre, ou simplement parce qu'on a entendu quelqu'un dire « j'ai subi ça », on se dit « mais attends, mais moi aussi ».
D'où l'intérêt d'avoir des institutions qui réagissent avec des personnels compétents pour écouter la
Absolument.
Parole des enfants,
des psychologues,
dans toute leur fragilité.
Oui. Et c'est ce que la commission Sauvé a bien su mettre en place, je crois, la CIAS, avec des psychologues, des... vraiment tout un panel de professionnels qui ont pu intervenir.
Enfin, vous voulez dire la CIAS a, oui. La CIAS a préconisé.
Après, oui, voilà.
Mais après, je crois que dans la réalité, dans la réalité, c'est pas toujours le cas.
Je crois qu'elles ont eu du mal à se mettre en place, mais si je crois ce que dit Véronique Margron, quand même, il y a eu un progrès. Quand même, il y a des efforts de fait.
Ah ben certainement, j'espère.
C'est pas évident pour ces commissions de...
Ah oui.
Bon,
dans ces
compliqué.
Affaires, on a aussi mis en cause le célibat des prêtres et la non-mixité de ces fonctions. Est-ce que pour vous, c'est une des raisons du problème, des origines du problème ?
Le célibat et la non-mixité, pour moi, sont un problème dans la mesure où elles mettent à part... C'est toujours ce problème, kléros, mettre à part des individus. Parce que si un être humain choisit le célibat de son plein gré parce qu'il a envie d'être célibataire, il n'y a aucun souci. Qu'il soit prêtre ou autre chose, c'est pas de problème. La mixité, c'est pareil. Ça veut dire qu'on reconnaît une altérité et qu'on ne met plus une race, une espèce masculine, en l'occurrence, à part. C'est en ça. Parce que je ne pense pas que les femmes soient meilleures que les hommes. On l'a vu dans les camps de concentration, les capots à Ravensbrück, elles n'étaient pas mieux que leurs camarades dans les camps masculins.
Et pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a des garde-fous qui ont été mis en place par l'Église pour que se reproduisent pas de telles affaires ?
Je crois, mais il n'empêche que quand je lis que dans l'affaire des Béatitudes, un des prêtres a été exfiltré et qu'il est dans le diocèse de Fréjus-Toulon bien à l'abri, ça me fait froid dans le dos quand même.
Donc là, on parle de tout ce qui est les ordres monastiques, les couvents, qui sont des milieux un peu fermés, encore
des
moins
endroits
ouverts,
fermés, mais
sur le,
ces
sur
prêtres sont accueillis dans un diocèse où on les laisse en liberté, alors qu'on sait que ce sont des bêtes féroces. Enfin, je...
Est-ce qu'on peut parler de spécificité catholique, finalement? On se souvient que la commission Sauvé avait dit que c'était donc un problème systémique. Et on sait que la plupart des grandes enquêtes françaises comme internationales n'ont touché finalement que l'Église catholique sur ces problèmes de violence sexuelle.
Mais parce que la spécificité du catholicisme, c'est cette mise à part du prêtre. Vous avez l'impression que j'insiste, mais ce n'est pas le cas dans la religion protestante. Vous n'avez pas cette espèce d'identification au Christ du prêtre, vous n'avez pas cette façon de le mettre complètement séparé, sans les pasteurs hommes et femmes se marient, vivent une vie normale comme tout le monde. Il y a aujourd'hui, tout le monde connaît des prêtres qui vivent dans la plus grande fraternité, sans soutane, je disais tout à l'heure en travaillant, vous échangez avec eux exactement comme avec n'importe qui.
Et alors, c'est juste rapidement, pardon, parce que c'est vrai que l'émission passe très vite, mais vous plaidez, on voulait en discuter avec vous, pour une féminisation de l'Église. Alors expliquez-nous.
Mais oui, parce que je pense que l'Évangile... Je disais tout à l'heure que dans l'Évangile, il est dit « Tu n'appelleras personne père ». Jamais un homme vous dira ça. Si les femmes peuvent réinterpréter, lire l'Évangile, lire la Bible autrement, on apporte une autre chose. On peut témoigner autrement et on apporte cette mixité. Je crois qu'il faut qu'il y ait une égalité totale entre les hommes et les femmes dans l'Église catholique pour arrêter ce système qui fait ça.
Mais ne pensez-vous pas que des affaires vont éclater dans d'autres religions? On a vu un imam condamné à Montpellier, toujours sur le fonctionnement de peut-être de l'abus d'autorité entraîne un excès de confiance.
Mais bien sûr, dès qu'il y a pouvoir quelque part, dès qu'il y a une autorité, il y a un risque d'abus, quel que soit le domaine, pas seulement dans les religions. Partout.
Écoutez, l'émission se termine. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous. On pourra en discuter encore de longues minutes et de longues heures. Merci Lionel, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon Politique.